Sexploration.
Sexploration
sur RCN. Lucille Bach.
Et si le plaisir, voire même le désir, n'avait pas de date de péremption ? Bienvenue dans Sexploration, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle sur ta sexualité. Salut Chloé.
Salut Lucille.
Aujourd'hui, on va explorer comment le désir et l'érotisme évoluent de 20 à 80 ans, parce que oui, il n'y a pas de fin. On verra bien par la suite. Toi, en tant que sexologue, est-ce que tu peux me dire comment elle se construit déjà la sexualité, à nos prémices, hein, déjà dans la vingtaine ?
Bah dans la vingtaine ou même avant, tu vas construire un petit peu avec les clichés, avec un petit peu ce que tu as vu, ce que tu as entendu, comment on fait. Donc c'est là que tu vas un peu mettre en application finalement tout ce que tu penses savoir. Et c'est là que le grand tri et le grand ménage aussi va se mettre en place sur ce que tu aimes, les goûts et les couleurs.
Est-ce que tu penses que c'est à partir de là aussi qu'il y a une sorte de découverte du corps ? Parce que c'est les premières expériences qu'on a.
Oh bah, je pense que les premières expériences du corps, elles se font même bien plus tôt. Ça, je pense que c'est à la sensibilité de la personne. C'est au moyen qu'elle a eu aussi d'avoir la liberté de se découvrir ou pas. Mais si on veut vraiment rentrer dans le vif du sujet, ça va être des fois très tôt. Ça veut dire que même au stade d'enfance, c'est là. Alors toi, tu ne vas pas mettre le mot parce que tu es encore un être pur. Donc tu ne vas pas du tout mettre ces mots de sexualité, de choses comme ça, de plaisir. Mais tu vas juste avoir finalement des sensations corporelles qui vont commencer à apparaître.
Oui, c'est un peu biologiquement parlant automatique.
Oui, c'est exactement ça.
On me disait à l'instant que souvent, parfois, à nos débuts d'expérience, on a tendance à être influencé par nos pères. Est-ce que c'est tout le temps comme ça quand on est jeune ou...
Alors, c'est comme ça tout le temps et pour tout le monde.
On y passe tous.
On y passe tous et ça ne reste pas conditionné à la vingtaine. C'est-à-dire que ça nous suit finalement toute notre vie. C'est les normes sociales, le pays dans lequel tu es né, la façon que tu as eu d'avoir une éducation, est-ce qu'on en rajoute une religion ou pas. Finalement, tout ça, c'est ça qui va te conditionner à ce que tu vas faire, ce que tu peux faire, ce que tu ne veux pas faire un peu.
Si on voulait conseiller du coup les jeunes de la vingtaine, notamment à comment s'initier dans l'érotisme, on pourrait leur dire quoi ?
Alors de s'écouter vraiment le plus profondément possible et d'essayer de mettre un petit peu, que ce soit... un peu les comptes Insta survendus, les livres qui paraissent un peu trop faciles ou en tout cas les discours qui paraissent un peu simplistes, de s'en méfier. La sexualité n'est pas simple du tout. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes justement en consultation sexologique parce qu'ils sont complètement perdus, il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est un peu la foire où tout et n'importe quoi. Donc c'est simplement écouter son corps et aller à son propre rythme, ne pas se faire de mal et pas non plus se créer des traumatismes qu'on devra porter longtemps.
Oui, et puis la problématique aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sources d'informations qui peuvent nous influencer, nous induire en erreur. Je pensais à tout ce qui est pornographie, tout ce qui est la comparaison entre chacun, hein, parce qu'on est tous différents sur ça et on a une sensibilité différente. La problématique de performance qui revient très rapidement et très tôt. Comment on va éviter tous ces pièges ?
Je pense encore une fois que c'est déjà bien s'informer sur la biologie, ce qui est biologiquement vraiment faisable. Parce qu'entre ce qui est écrit ou ce qui est dit par la copine, le voisin ou le copain, on va dire, il y a quand même un monde. C'est-à-dire que même les adultes sont perdus. Donc imaginez que les jeunes sont encore plus perdus que nous. Surtout qu'eux, ils ont un flot incessant d'informations avec les réseaux sociaux. Donc pour faire un tri là-dedans, bon courage, hein, c'est pas évident. Donc c'est simplement reprendre les bases de la biologie, savoir finalement comment on fait les choses et comment on le fait en sécurité, donc tout ce qui va passer par la contraception, le consentement, la légalité des choses. Quand on consomme de la pornographie, ça reste un loisir comme des jeux vidéo et il faut pas non plus aller dans des catégories trop hard sur le départ, parce qu'on peut se choquer ou carrément se paralyser un petit peu dans tout ça.
Bien s'informer, si on résume. Est-ce qu'il y a une place particulière justement de cette curiosité en veille d'information ou même d'expérimentation ?
Oh oui, bon, ça c'est, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu le moment où il y a tous les jeunes poulains qui sont sortis. Hein. Moi, je compare un petit peu souvent ça, c'est-à-dire que dans la vie, on commence un peu jeune poulain dans le pré, on est un peu fougueux, on fait un peu n'importe quoi. Et après, on commence à se calmer, on devient un petit peu les talons du pâturage, on se dit bon allez, là, c'est bon, j'ai plus rien à prouver, entre guillemets.
Regardez-moi, c'est bon, je devrais avoir les bases, c'est bon.
Voilà. Non, c'est. Mon prof appelait ça les hauts grades, dans le sens où.
Excellent.
Voilà, là, il y a un vrai travail, il y a une vraie amenée de la sexualité et surtout de l'érotisme qui est mis en place. En tout départ de vie, il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas d'orgasme, si on ne prend pas forcément de plaisir ou de choses comme ça, ce n'est pas des signes alarmants. C'est simplement qu'entre la théorie et la pratique, il y a un temps d'adaptation. Donc le temps que le corps aussi fasse un petit peu sa cartographie de finalement, oh bah, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Ça, on le voit dans les films porno, donc je vais le faire. Mais le temps qu'aussi on réalise que bah, finalement, ça ne nous plaît pas du tout, on l'a vu, mais c'est nul. Bon, ça prend un petit peu de temps aussi.
Oui, et puis ce n'est pas forcément le résultat qu'on attend. Hein.
Non.
Pourquoi, selon toi, je vais te poser une question qu'on m'a mis un peu en soum-soum, pourquoi cet âge, il reste fondateur dans l'imaginaire érotique?
Bah, il reste fondateur parce que c'est là que tu vas mettre... J'ai envie de te dire tes capacités max, parce que c'est là que tu vas expérimenter. Donc c'est là que tu vas aller sur des sites porno, c'est là que tu vas aller regarder des choses des fois un peu trop, ou voilà. Donc finalement, c'est là que ça va te conditionner un petit peu sur tes goûts et sur tes capacités aussi. C'est-à-dire que tu as l'éducation qui suit en plus derrière de tes expérimentations. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est toléré? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ça te construit tout doucement un chemin. Et donc dans tout ça, si en plus tu n'as pas été dans une famille par exemple où tu as été élevé un peu à la sensibilité artistique, à la sensibilité émotionnelle, etc., bah, ça te conditionne encore plus pour le reste.
On va passer quelques années plus tard, hein, ouais. On grandit, pour certains c'est plutôt on vieillit, mais on va dire on va grandir,
ouais.
On arrive à la trentaine, bon pas encore pour nous, mais c'est pas tardé. Comment évolue la libido dans cette phase?
Alors dans cette phase, ça va être... mitigé.
Ok, allons-y.
C'est-à-dire que c'est finalement aussi un moment charnière dans le sens où déjà c'est là que tu commences à avoir tes envies de construction familiale si tu as envie d'une construction familiale, d'enfant si tu en as envie. Et c'est là que tu vas faire le point entre là maintenant je suis une femme ou je suis un homme, j'ai 30 ans, je commence à m'imposer, je commence à être le petit étalon ou la petite pouliche, tu vois. Et c'est là que tu te dis finalement, bah ça, j'ai plus envie. Bah ça, non, j'ai plus envie de me forcer. C'est là que tu commences à dire, bah si c'est quelqu'un que je supporte pas, j'arrête de faire des courbettes et je lui dis clairement que je l'aime pas. Et finalement, ça montre que tu vas commencer à avoir des positions et t'imposer. Avec ce que tu as envie aussi, parce que tu dis, ouh, le temps avance tout doucement. Et là, finalement, ça va être un peu un âge panique,
ouais.
Où tu vas faire le tri, mais qui est très, vraiment très nécessaire pour le coup.
Et quand tu es en couple, imaginons tu es en couple, est-ce qu'on peut dire que le fait de découvrir cette libido, cet érotisme sur différents terrains, d'expérimenter, ou à contrario, être tombé dans la routine, hein, ça peut arriver aussi. Est-ce que on peut quand même retrouver une certaine stabilité, parce qu'on arrive à un certain âge, on dit vas-y, on a essayé quand même pas mal de choses.
Oh bah oui, c'est et encore, hein, il y a des couples qui avant très très longtemps, mais ça viendra sur d'autres âges où on n'a pas eu de découverte, parce que encore une fois, ça existe, hein, c'est même plutôt normal où il y a des gens. Bon, ils n'auront pas découvert plus que ça à 30 ans, ils n'auront pas eu d'orgasme à 30 ans. Et c'est là aussi que tous ces questionnements vont se poser, hein, en disant « mais je ne suis pas normale, je crois que je n'ai pas découvert ça, machin ». Donc là, tout va se mettre en place. Quand tu es en couple, c'est là que tu vas faire aussi le bilan de satisfaction, entre guillemets, entre l'appartement témoin du départ et là, le bilan des 30, on va dire. Qu'est-ce qu'on a construit ensemble? Quel chemin on veut prendre? Est-ce que les projets coïncident toujours? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Et pour vraiment l'attrait érotique et très voilà, personnel et intime du couple, c'est finalement qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, quel chemin on prend, qu'est-ce qu'on a besoin là-dedans et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Mais la routine n'est pas une maladie, c'est même nécessaire.
Et c'est un besoin dans la vie. Justement, cette routine, des fois, il y a des défis pour un petit peu la relancer. Relancer la flamme entre nous.
C'est ça.
Comment on va relancer le désir, en fait, pour qu'il soit un peu plus vivace, si je puis dire?
Bah déjà, c'est comprendre pourquoi il s'éteint. C'est un
la base,
peu bête,
hein,
mais en fait, le désir un peu et la spontanéité des rapports, tout ça, des moments charnels que tu as envie, va s'arrêter parce que tu ne prends plus de temps pour toi, à titre personnel, et tu ne prends plus le temps non plus pour ton couple. C'est-à-dire qu'on maintenant, on a des 35 heures minimum. Bon, bah, en général, tu ne mets pas les pieds chez toi de la journée. Tu retrouves ton conjoint ou ta conjointe. Il est, allez, 19h, mais il faut encore faire à manger, langer les enfants s'il y a des enfants, les coucher, faire les lessives, enfin, il y a plein de trucs à faire. Et finalement, quand tu fais le bilan horaire d'un couple aujourd'hui, s'il a une heure à lui sans tâche à faire, bah c'est déjà un grand bingo. Donc dans une heure, c'est toujours la même question, c'est est-ce que je peux apprendre une symphonie de Mozart en une heure par soir ? Je ne pense pas. Donc on commence par le solfège.
On va faire la petite mélodie au début, hein. Ça
voilà.
Sera déjà pas mal.
C'est ça. C'est finalement se dire, ben oui, on ne peut pas exiger autant de nous alors qu'on a la fatigue, on a tout ça qui se met en place. Donc il faut absolument que ces moments qu'on vit à deux qualitatifs, ils soient de plus en plus présents et qu'on soit vraiment dans quelque chose où il faut se dire que nos corps et notre esprit devient de plus en plus intransigeant, donc il faut qu'on soit sur de la vraie qualité.
Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu à nos auditeurs et auditrices aussi, c'est quoi c'est l'impact, l'importance de cet impact de la charge mentale au quotidien, que ce soit par le travail, comme tu disais, ou toutes les autres tâches qui font qu'on est fatigué à la fin de la journée. Comment on peut rappeler aussi que c'est une importance et qu'il ne faut pas se... Alors, c'est bien un grand mot, hein, mais se flageller que bah, si on n'a pas envie, bah, on n'a pas envie.
Bah, c'est reprendre encore une fois la biologie des choses, c'est-à-dire que pour le corps, de toute façon, tes organes génitaux, s'ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas, ce n'est pas vital. Donc lui, il va faire fonctionner ta tête, ton foie, tes reins, enfin tout comme il faut, faire en sorte que tu t'alimentes, que tu urines normalement, que tu sois plus ou moins en forme avec une qualité de sommeil. Si tout ça n'est pas coché, on part déjà mal. Si en plus de ça, on rajoute les facteurs psychologiques, donc le moral, les pressions sociales que tu peux avoir, que ce soit au boulot, la collègue, entre guillemets, qui casse les bonbons, etc. Forcément, si tu rajoutes tout ça, bah, le cerveau, lui, va se dire « bon, bah, il y a déjà tous les dossiers là qui sont ouverts. Bon, bah, j'ai pas forcément besoin. » Et j'ai une petite phrase qui est bien pour faire un petit mémo, c'est « est-ce que dans ma journée, j'ai eu le temps de rire ? Si j'ai pas eu le temps de rire, j'aurais pas le temps de jouir. » Comme ça, ça permet d'avoir un parallèle où on se situe comment j'ai envie de rire aujourd'hui et comment j'ai envie de jouir finalement, c'est un peu la résultante. Ça reste du temps bonus, cette sexualité et cet érotisme, et c'est pas un dû, pas du tout.
Est-ce qu'on pourrait dire que la trentaine, c'est une sorte d'affirmation sexuelle avant de passer à la suite quand on devient quarantenaire ?
Alors, plus généralement, oui, mais c'est pas une vérité, encore une fois, pour l'entièreté du peuple, on va le dire. Dans le sens où, des fois, 30 ans, tu es encore, et ça dépend des générations aussi, encore une fois. On sait que nous, par exemple, la génération des 90, on est des grands enfants qui tardent sur le tas. On joue un petit peu avec tout ça. Donc forcément, on n'a pas des mariages qui sont tôt comme avant. On a une liberté avant de se poser, de se mettre en couple qui vient beaucoup plus tard. Enfin, un peu tout plus tard.
On a décalé en fait les objectifs de vie, quoi.
Voilà, exactement. Donc bon, en décalant des objectifs de vie, forcément, tu décales aussi un petit peu tout ça. Et la découverte, il n'y a pas de réel âge à ça. C'est-à-dire que tu peux être finalement marié depuis 40 ans et avoir une satisfaction proche de zéro.
C'est vrai.
Et finalement, du jour au lendemain, tu... Pouf ! C'est incroyable parce que tu rencontres quelqu'un qui... Ou tu fais pas ça par obligation matrimoniale, entre guillemets. Quand je prends des grands guillemets, on ne fait jamais ça. Mais malheureusement, c'est dans les mœurs actuelles. On se dit, bah, tiens, là, je vais le faire comme ça, il va me lâcher les baskets deux semaines. On pense plus dans cette démarche, mais on pense pour soi. Donc là, c'est totalement différent.
On se libère, quoi.
Exactement.
Et donc là, ça y est, on a 40 ans. Bon, pas encore pour nous, mais on se comprend. On a 40, 40, 50. Est-ce qu'il y a des évolutions hormonales qui vont influencer le désir, justement ?
Alors, on peut avoir quelques variations, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. C'est pas encore les âges où ça va être le plus marqué. On va dire que c'est le début. Mais c'est pas une vérité, surtout que maintenant, on devient vieux de plus en plus tard. Maintenant, 40-50 ans, c'est pas vieux du tout. Donc le corps en négocie encore bien avec nous. Là, par contre, on va être encore dans un critère où, comme on choisit son vin, on va être encore plus exigeant. C'est-à-dire que là, si on a eu une vie de couple et que ça s'est terminé, on sait déjà ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. On sait ce qu'on veut s'imposer ou pas. Donc on va pas s'embêter. Si, par exemple, elle a un chien et que moi, j'en veux pas chez moi... Bah, on fera pas le même effort finalement qu'à 20 ans, en disant bon bah allez Médor peut venir finalement, il a l'air sympa, là tu feras même pas l'effort parce qu'il n'y a pas de négociation possible. Donc cette négociation tu vas aussi avoir la même dans ta sphère privée, tu négocieras plus, t'as pas envie, tu feras pas exprès pour lui faire plaisir ou quoi, tu vas être beaucoup plus affirmé.
Je te demande simplement parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé un petit peu précédemment, tout ce qui était ménopause, andropause, donc ça m'a fait penser à ça et je pense qu'il y a peut-être une autre manière de cultiver cet érotisme dans cette évolution d'âge et donc avec ces changements hormonaux.
Bah oui, parce que ça reste que des changements hormonaux. À partir du moment où émotionnellement ta capacité est intacte, qu'il n'y a pas de maladie, de choses qui viennent embêter toute cette sphère, mais tu es encore dans le champ des possibles. Alors effectivement, je ne dis pas qu'une séance de Shibari, si on aimait ça, c'est beaucoup plus évident à 70-80 qu'à 20 ans. Je pense que la souplesse, effectivement, joue. Mais dans la possibilité vraiment émotionnelle des choses, tu as toujours la même.
Est-ce qu'on dit souvent, tu vois, que la quarantaine, c'est la crise ?
Mm-hmm.
Bon, elle sera décalée pour certains. Est-ce que c'est une crise ou c'est carrément une renaissance, en fait ? C'est un point de vue, non ?
Oui, totalement. C'est très subjectif, cette crise, parce que on a souvent tendance à se dire, bah, allez, on fait la crise des 30, voilà. À 50, si on a des cheveux poivre et sel pour les garçons, c'est là qu'ils vont commencer à faire n'importe quoi et aller courir des jupons. Non, heureusement que tout le monde ne fait pas ça. C'est simplement que c'est des petits moments paniques, les âges un peu clés, hein, comme ça, parce que c'est là que tu fais le bilan à chaque fois à ton anniversaire ou à un âge qui approche. Tu dis, oh, putain, je vais avoir 30 ans, oh putain, je vais avoir 50, oh là là, je vais avoir 70. Et tu te sens vieux alors que tu ne l'es pas du tout. Pour moi, maintenant, en ayant été aussi dans le médical, j'ai envie de te dire, ça dépend comment tu te conserves. Mais généralement, t'es pas vu avant 80 balais maintenant.
Ouais, et puis, comme on disait, c'est un état d'esprit aussi. Donc, c'est le même. Son rapport à l'érotisme est dans la même logique, en fait.
C'est exactement ça. Puis, tu peux, on va dire, on va prendre quelqu'un qui est vraiment dans un âge avancé. Il peut avoir un corps qui communique plus du tout parce que, voilà, la vieillesse fait. Mais par contre, son cerveau marche très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas autant capable de s'exciter qu'un genou de 20 ans.
Maintenant, on va écouter les plaisirs démodés d'Aznavour. On se retrouve dans quelques minutes.
Dans le bruit familier de la boîte à la mode, psychédélique au curieux décor, nous découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connus parmi ceux de notre âge, toi vêtu en indienne et moi en col mao. Revenons depuis comme en pèlerinage, danser en la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons joue contre joue, dansons joue contre joue. Viens noyer dans la cohue, mais dissocié du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue, dansons, joue contre la piste envahie, c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est là. Ils semblent sacrifiés à des rites barbares. Sur des airs d'aujourd'hui, souvent vieux de tout temps. L'un à l'autre étrange et bien que dansant ensemble, les couples se démènent, on dirait que pour eux. La musique et l'amour ne font pas corps ensemble. Dans cette obscurité, propice aux amoureux. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens, noyer dans la cohue, mais dissocié du bruit. Comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre. Serre-toi encore plus fort. T'occupe pas des autres. On est bien comme ça, la joue contre ma joue. Tu te souviens? Ça fait un drôle d'effet tout de même. On a l'impression de danser comme nos parents. Dans le fond, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. Les époques changent. L'amour reste. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue.
Sexploration. Sexploration. Lucille Beck.
Précédemment, on évoquait que la quarantaine n'était pas forcément une crise.
Exactement.
Mais qu'elle pouvait être une renaissance. Donc là, on a vieilli bien, un petit peu plus, hein, forcément, dans le sens que là, on a la soixantaine passée. On sait qu'il y a des changements physiques, mentaux, psychologiques, etc., etc. Il y a des clichés aussi qui s'accordent à cet âge, qui persistent. Est-ce qu'on peut déjà un peu en donner sur la sexualité des seniors?
Ah oh bah c'est que c'est ça n'existe plus.
C'est fichu.
Le plus grand des, c'est que des gens s'habillent forcément en mémère. C'est forcément chambre à part. C'est forcément finalement le déambulateur à côté du lit. Hein, mais franchement, c'est limite ça, hein, cette vision qu'on a. Alors que pas du tout.
Ben oui, il y a une suite,
ouais.
Si on le veut bien sûr, toujours. Est-ce que c'est l'âge d'un érotisme plus tendre, plus profond, plus doux?
Disons que oui, c'est là que ça commence à être, parce qu'on a fait un peu nos choix, voilà, on a fait notre carrière érotique, et maintenant c'est le moment finalement où oui, tu vas avoir un échange qui va commencer à être modelé différemment, parce que les organes génitaux, encore une fois, ils sont bien gentils, mais eux ont une date de péremption. Le corps a une date de péremption, mais l'esprit lui-même, les sentiments, non. Mis à part maladie, ça marche encore. Donc effectivement, on va s'appuyer d'autres supports pour continuer à avoir ce jeu entre nous.
Et justement, comment on va s'adapter en termes de pratique, et puis en fonction du rythme du corps, forcément?
J'ai envie de te dire, tu t'adaptes assez naturellement, finalement. Si tu commences à avoir des bonnes douleurs lombaires, des choses, des problèmes de circulation qui se mettent en place, tu vas avoir tendance à forcément pas te mettre dans des positions ou des choses qui vont être douloureuses. La lubrification, c'est important aussi. C'est des choses qui, bon, j'ai envie de te dire, même au tout départ, hein, qui peuvent être problématiques. Mais avec les changements hormonaux, etc., peut y avoir une petite sécheresse qui se met en place. Et c'est là qu'effectivement, il faut choisir les meilleurs produits aussi pour se dire, voilà, lubrifiant à base d'eau, qui soit hydratant, des choses comme ça pour se donner le plus de confort possible.
Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a certains bénéfices à perdurer ce désir de sexualité sur sa santé physique, mentale? Et puis quels sont-ils s'il y en a d'ailleurs?
Bah oui, mais c'est simplement qu'on va basculer entre une sexualité très jeune, on va dire de minot. Oui, là on bascule tout doucement au fil des années, donc jusqu'à un âge un peu plus mûr, où là tu bascules dans une sensualité, un érotisme là pour le coup qui est total, et une affection, quelque chose qui va être beaucoup plus affectif, sensuel et dans l'émotion. Donc tu vas t'appuyer là-dessus et c'est un changement qui se fait, j'ai envie de te dire, pas naturellement mais presque, et c'est très important de le conserver parce qu'on vieillit ensemble. Souvent quand on est ensemble à cet âge-là, c'est parce qu'on a choisi de vieillir ensemble. Donc autant vieillir dans une atmosphère qui est très propice, qui nous fait du bien et qui nous fait quand même vivre. Le but, c'est pas d'attendre la mort. Hein.
Et par la suite, dans cette charmante transition, justement, le plaisir, a-t-il une fin?
Oh, le plaisir, non. Il a pas de fin du tout. La seule fin qu'on lui donne, c'est celle qu'on lui a envie de lui donner.
Et sa date de péremption en fonction de ce qu'on dit. Hein.
Exactement, de ce qu'on dit, ce qu'on fait et de ce qu'on a envie surtout.
Est-ce qu'il y a des modèles, des figures qu'on peut mettre en avant? On parlait un petit peu en off d'un compte Instagram, je ne sais pas si tu l'as encore.
Oui, Isabelle Pérouse, par exemple, qui est pour moi une vraie personnalité à suivre, que je trouve vraiment incroyable. Donc, c'est une femme qui a une soixantaine d'années et on voit qu'elle reste dans le glamour. Elle a beau avoir 60 ans, elle a une classe qui est juste oufissime et elle est vraiment dans ce cassage de clichés et d'images qu'on peut avoir des seniors où c'est limite noir et blanc et chiant. Alors que ce n'est pas du tout la vérité, il ne faut pas se caler comme ça. Donc oui, c'est clairement un compte Instagram à suivre, Isabelle Pérouse.
Allez-y. Comment on peut construire un dialogue intergénérationnel sur l'érotisme, donc c'est-à-dire peut-être un peu un partage de tout le monde, en l'occurrence?
Bah ça, c'est un de mes rêves exquis, hein,
ah, oui.
On va dire. Effectivement, qu'il y ait entre guillemets une table ronde où il y a plusieurs générations qui sont autour de la table et qu'on parle vraiment de ce qui est vrai, pas de ce qu'on raconte, mais parler vraiment avec les gens. Et ça permet de se dire, finalement, moi je pensais qu'à un certain âge c'était terminé, je vois que finalement... Il s'éclate plus que moi. C'est un peu drôle de penser comme ça, mais c'est la vérité, c'est-à-dire ne pas catégoriser les gens. Et on a tendance à le faire de plus en plus dans cette, comme je te disais, cette liberté sexuelle. Pour moi, la deux tranchants, c'est qu'effectivement, on parle de beaucoup de choses, mais on retranche beaucoup dans des cases, deux cases. Donc c'est un peu compliqué.
Il est dur ton Tetris là.
Ouais, ça commence à être compliqué là. Mais effectivement, il faut arrêter d'avoir des préjugés et des prérequis sur quoi faire à quel moment. Écoutez un petit peu autour de vous, voyez un peu comment ça se passe. Non, c'est pas parce que c'est votre maman ou votre mamie qu'elle a arrêté toute pensance et qu'elle est au rang religieux maintenant, ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est simplement parler et s'intéresser si on a envie. Alors on n'est pas obligé de le faire avec sa famille, bien sûr, mais on peut s'intéresser justement à des groupes de parole, des choses qui peuvent être intéressantes.
Et justement, comment on va pouvoir transmettre une vision un peu plus libérée et durable de la sexualité? Allons-y, le mot de la fin.
Le mot de la fin, reprendre l'histoire, voir que dans les années 70, on avait déjà tout inventé, qu'on n'a pas inventé le chaud d'aujourd'hui, donc prenez l'enseignement des vieux, mais le positif.
Merci Chloé pour nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Le prochain sujet est à découvrir sur Instagram, sexpression.lucille.bac. Ça t'a plu? Si cet épisode t'a fait vibrer, partage-le, note-le, parle-en. On se retrouve chaque jeudi pour casser la routine avec Sexpression. Bisous, bisous.
Bisous.